Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite et en rediffusion le mardi matin à 10h. Vous nous écoutez sur graphite.net en direct ou en différé et également sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Bienvenue à tous. En une petite heure, nous allons un petit peu feuilleter l'actualité scientifique avec Carole. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Comment vas-tu depuis la semaine dernière?
Ça va très bien.
Oui, je te sens, je dirais, épanouie. C'est peut-être le printemps qui arrive.
Ne nous enflammons pas. Hein. Au niveau de la température, moi, j'ai pas perçu le printemps pour l'instant.
Mais comment tu peux être comme ça? Mais sois optimiste. Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 février et je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 9 février.
Oui.
Des gens importants.
Oui,
des gens bien. Des gens bien, en fait.
Des gens qui sont parmi nous dans ce studio.
Exactement. Et qui bossent finalement le jour de
leur anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Noël.
Merci, je ne donnerai pas mon âge. Le 9 février 1969, le Boeing 747, surnommé Jumbo Jet, effectue son premier vol aux États-Unis. C'était en 69 déjà à l'époque. Et en 1996, on a synthétisé pour la première fois le copernicium. On en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas de journée internationale répertoriée pour ce 9 février. C'est dommage, mais ça ne devrait tarder. Des naissances à 9 février, eh bien en 1910, la naissance de Jacques Monod. Il est mort à Cannes en 1976. C'est un biologiste, un biochimiste français de l'Institut Pasteur de Paris. Il a été lauréat en 1965 du prix Nobel de physiologie ou de prix de médecine, hein, c'est la même chose. Il fait l'essentiel de sa carrière au sein de l'Institut Pasteur à Paris. Il devient professeur à la Faculté des sciences de Paris, puis professeur au Collège de France et enfin directeur de l'Institut Pasteur. Mon Dieu, il a quand même eu une belle carrière. En 1965, donc, il reçoit le prix Nobel de physiologie avec François Jacob et André Loft pour ses travaux en génétique. En 1966, il porte le projet de création d'un centre de recherche spécialisé en biologie moléculaire. Nous sommes en 66, c'est quand même déjà très longtemps, il y a plus de 50 ans où on parlait de biologie moléculaire. Un institut qui va adopter le nom d'Institut Jacques Monod en 1982, donc pour lui rendre hommage. Il travaille également sur la nature, sur le destin de l'humanité dans l'univers. Il avait quand même aussi une vision assez intéressante et il a écrit un essai, le hasard et la nécessité, qui a eu un fort retentissement, qui amenait des débats sur la biologie, sur la place publique, et c'était intéressant. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. C'est comme ça qu'il conclut son essai « Le hasard et la nécessité » en 1970. Il est donc né à 9 février 1910. Un décès, celui le 9 février 1994 de Howard Martin Temin, qui est un biologiste moléculaire américain. Finalement, c'est le 9 février un petit peu la thématique de la biologie moléculaire. Il reçoit le prix Nobel de physiologie en 1975 pour ses travaux sur la transcriptase inverse, qui permet de mettre en évidence chez certains virus justement le rôle de l'ARN comme support de l'information génétique et sa possible transcription inverse justement en ADN à l'aide d'une enzyme de ce virus qui est vraiment spécifique. Et donc ce sont vraiment des découvertes importantes par la suite pour mieux comprendre et ensuite combattre certains virus. Il s'appelait Howard Martin Temin, décédé à 9 février 1994 et donc prix Nobel en 1975 de physiologie. Voilà pour ce 9 février. Je vous disais donc qu'il y a une bonne vingtaine d'années, en 1996, en Allemagne, on a synthétisé pour la première fois le copernicium. Et donc cette année 2019, vous le savez si vous êtes fidèle de cette émission depuis le début de l'année, nous commémorons le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Et donc toutes les semaines, on va s'arrêter comme ça sur un élément qu'on connaît ou pas. Alors on avait commencé avec l'hydrogène, le carbone, c'est certain qu'on est un petit peu plus au fait de ce dont il s'agit. Le copernicium, là, c'est un petit peu plus, un peu plus obscur parce que c'est assez récent, hein. Il a été synthétisé en 1996 pour la première fois. En fait, ce qui est intéressant, C'est lors des premières émissions de Biotine, donc il y a une dizaine d'années, on avait lancé un grand concours pour essayer de donner un nom à cet élément, parce qu'à l'époque, il s'appelait le Un-Un-Bium, donc 1-1-2, tout simplement parce que son numéro atomique est le 112. Et il y avait eu un grand concours qui avait été lancé, je ne sais plus par qui à l'époque, mais en tout cas un grand organisme de recherche, pour essayer de trouver un nom. Et on avait à l'époque essayé de militer pour l'appeler le Graphitium. Ça n'a pas abouti. On a rendu hommage à Nicolas Copernic, je vais y arriver, et on a donc donné le nom de Copernicium à cet élément, qui est un élément très radioactif, et il est situé sous le mercure dans ce fameux tableau périodique des éléments, et donc il est très volatile. Il n'est pas exclu qu'il puisse être gazeux aux conditions normales de température et de pression, mais en tout cas, on essaye d'en savoir un petit peu plus sur ce Copernicium, qui est un radioactif élément non naturel produit par l'homme. C'était donc en 96. Son symbole est le grand C petit n pour le copernicium et donc son numéro atomique 112, donc le 112. Toutes les semaines, vous allez pouvoir remplir vous-même ce tableau périodique des éléments et à force, on va arriver à la fin de l'année 2019 et on aura pas tout rempli, parce qu'on va faire une quarantaine d'émissions. Mais en tout cas, voilà, on aura essayé d'en savoir un petit peu plus. C'était donc l'éphéméride de ce 9 février, Carole.
Bien, merci Jean-Noël. Très intéressant. À chaque fois, je note parce que je révise. Tu notes
et tu m'écoutes avec attention, ce qui fait toujours plaisir. Comme nos auditeurs qui nous écoutent toujours avec attention.
Mais oui, est-ce que tu en doutes?
Je n'en ai jamais douté. Je me suis toujours demandé ce que faisaient nos auditeurs. Alors, comme là, c'est midi en général, peut-être ils sont dans leur voiture ou en train de préparer à déjeuner. Mais ils se sont dit, tiens, le copernicium, je pourrais à la rigueur le ressortir ce soir à mon dîner avec des amis.
Fait.
Ça fait toujours bien. Toi, c'est le côté un petit peu, c'est cette rubrique savoir étaler sa science et de se dire, mais tu sais qu'en 86, on a produit un radioélément non naturel, il s'appelle le copernicium et il aurait pu s'appeler le graphitium. Eh bien non.
Dommage.
Je n'ai pas de transition. Oui, de quoi vas-tu nous parler ?
Mais non, on reste dans la thématique des découvertes avec. On va parler de la maladie d'Alzheimer en fait. Donc on va faire un petit point santé et notamment un peu santé buccale, puisque la piste des bactéries buccales. Et leur rôle dans le déclenchement et le développement ensuite de la maladie d'Alzheimer, visiblement, se confirme. En tout cas, c'est ce dont nous parle Science et Avenir, puisque des chercheurs ont découvert dans le cerveau de patients malades d'Alzheimer des protéines toxiques provenant de bactéries pathogènes bucco-dentaires. Alors là, on se demande un petit peu quel est le rapport. Donc, on va tenter un peu d'expliquer ça. Donc, cette bactérie qui s'appelle Porphyromonas gingivalis, en latin, ce serait le nouvel ennemi à battre dans la bataille contre la maladie d'Alzheimer. En fait, c'est une bactérie associée communément à une pathologie chronique des gencives, la gingivite ou parodontie. C'est une inflammation buccale qui détruit la gencive et les os porteurs des dents. Alors, ça arrive à certains d'entre nous, malheureusement, d'avoir ce type donc, d'inflammation qui, si c'est pris à temps, ça peut quand même devenir grave, mais se limite en tout cas à la zone de la bouche et on va dire se règle après quelques rendez-vous chez le dentiste. Alors, dans une étude internationale menée par Cortexim, c'est un laboratoire pharmaceutique californien qui est spécialiste de la lutte contre Alzheimer. Et donc, ils ont même publié d'ailleurs cette étude dans Science Advances. Il apparaît que cette bactérie dont on vient de parler libère des protéines toxiques que l'on retrouve dans les cerveaux des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, protéines qu'on appelle les gingipaïnes. Alors, ce n'est pas la première fois en fait, qu'un lien est établi entre cette bactérie de la bouche et la maladie neurodégénérative qui touche en France, je le rappelle, 900 000 personnes en moyenne, puisqu'en octobre 2018, donc il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, le rôle de Porphyromonas gingivalis faisait déjà l'objet d'un article étonnant. Donc en effet, c'est la chercheuse américaine Keiko Watanabe du Collège de dentisterie de l'Université de l'Illinois à Chicago qui, à ce moment-là, avait démontré dans un article publié dans la très sérieuse revue Plus One que chez une souris chez qui était déclenchée une parodontie chronique par exposition répétée justement à cette fameuse bactérie Porphyromonas gingivalis, on retrouvait des signes de neuropathologie typique de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, on retrouvait quoi ? Une neuroinflammation, une neurodégénération, la production de peptides amyloïdes bêta. Je le rappelle, c'est un peptide qui s'agrège pour former des plaques amyloïdes, justement. On en parle beaucoup dans la maladie d'Alzheimer. Et également, on retrouver la production de protéines tau phosphorylées, qui, elle, est responsable de la destruction des neurones. De plus, Porphyromonas gingivalis avait été détecté dans l'hippocampe. Pareil, on rappelle, c'est la structure cérébrale qui est impliquée dans la mémorisation et qui est touchée précocement dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Donc, on retrouvait également la bactérie dans l'hippocampe des souris malades. Les auteurs, à ce moment-là, ont conclu que les caractéristiques neuropathologiques observées dans cette étude suggèrent fortement que l'infection par un pathogène parodontal chronique de faible grade peut entraîner le développement d'une neuropathologie compatible avec celle de la maladie d'Alzheimer. Première grande avancée sur le sujet. Aujourd'hui, dans l'étude internationale dont on parle, ce sont cette fois-ci des cerveaux humains post-mortem qui ont fait l'objet de recherches. Des tissus cérébraux issus de biobanques, oui parce qu'il faut les trouver hein, quand même, ces tissus, ces cerveaux disponibles pour réaliser ces expériences. Donc là, ces tissus de biobanques de Nouvelle-Zélande, ils ont révélé la présence dans les neurones des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer de protéines particulières donc appelées les gingipaïnes. Et ces gingipaïnes, en fait, quand on les analyse, ne sont rien d'autre que les protéines sécrétées par Porphyromonas gingivalis. Mieux encore, dans cet article, les auteurs démontrent qu'une molécule qui est un inhibiteur de protéases bactériennes, donc ils l'ont baptisé COR388, ça a été développé bien sûr par le laboratoire en question qui fait les recherches, hein, et bien cette molécule, elle débarrasse le cerveau des souris malades des gingipaïnes et à ce moment-là, les souris se rétablissent. Donc c'est, en fait, c'est ça qui quand même, c'est-à-dire qu'indépendamment du fait qu'on identifie peut-être d'autres acteurs responsables de la dégénérescence hein, qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, il y a une possibilité de, visiblement, amélioration de l'état, voire dans le cas des souris, en tout cas, rétablissement. Donc on peut comprendre que ça suscite un grand intérêt. Le laboratoire californien donc, poursuit ses recherches dans les starting blocks. Hein. Il a déjà lancé un essai clinique de phase 1 qui s'est achevé il y a quelques mois avec pour objectif justement étudier déjà la sécurité d'administration de COR388, donc ce fameux inhibiteur, chez l'humain. Oui, parce qu'il faut quand même voir quel effet ça pourrait avoir sur nous déjà avant de vouloir traiter potentiellement des patients Alzheimer. Donc ce que nous confirme Yann Potempa, chercheur à l'école dentaire de l'université de Louisville, qui est co-auteur de l'étude, c'est que parallèlement à leurs travaux de laboratoire, l'inhibiteur a également été testé donc, pour les éventuels effets indésirables sur une cohorte de volontaires en bonne santé. Cet essai de phase 1B s'est terminé avec succès et cela signifie qu'il n'y a apparemment pas eu d'effet indésirable chez les personnes testées, ce qui indique que le COR388 peut être utilisé sur les humains. Donc ça, c'est leur première conclusion. Selon toujours Yann Potempa, la prochaine étape consistera à tester ces effets sur les fonctions cognitives sur une cohorte de patients souffrant cette fois-ci de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est ce qu'on appelle un essai de phase 2. Et si ça fonctionne, eh bien, il ajoute, nous serons à même de penser que les inhibiteurs de la gingipaïne peuvent être utiles pour tester la colonisation cérébrale et pour la traiter surtout donc à Porphyromonas gingivalis et la neurodégénérescence que provoque la maladie. Selon le laboratoire, les essais de phase 2 puis 3, alors 3 c'est quand on élargit à une plus large cohorte de patients, de COR388 seraient lancés auprès de personnes donc atteintes de la maladie d'Alzheimer légère à modérée dès cette année, dès 2019.
Ah oui, quand même.
Oui. Donc c'est vraiment
c'est vraiment l'actualité là.
On est vraiment dans l'actualité à la pointe de la recherche sur Alzheimer et on attend donc avec impatience les résultats qui découleront de la suite de ces essais. On peut se demander en fait quand on découvre ça que peut-être il y a un moyen déjà en amont de lutter contre l'attaque bactérienne en se lavant mieux les dents parce que on a l'impression que ça a un rôle finalement alors
bien sûr.
Essaie de trouver les connexions. On nous explique que ce n'est pas aussi simple. Donc le même scientifique ajoute que justement, pour maintenir le parodonte, je le rappelle, c'est les tissus qui soutiennent la dent en bonne santé. Une hygiène buccale régulière, en effet, est importante, hein, mais peut ne pas être suffisante. Parce qu'en fait, quelle que soit la qualité de l'hygiène, les bactéries se développeront à la surface de la dent sous la ligne gingivale, ces fameuses bactéries dont on a parlé. Après, ça dépend de la sensibilité des individus. Chez les individus les plus sensibles, cela peut conduire à une inflammation, endommageant le parodonte qui petit à petit va progresser de manière assez silencieuse jusqu'à fragiliser la dent. Ce qu'on nous conseille donc, c'est qu'en dehors évidemment de l'hygiène buccale régulière de base, hein, il est très important de faire nettoyer ses dents de manière professionnelle au moins tous les 6 mois. On connaît bien ce procédé qui s'appelle détartrage et qui permet d'éliminer le biofilm bactérien, donc c'est la plaque dentaire, hein, c'est appelé comme ça plus communément, et ça prévient justement le développement de l'inflammation. Parce que cet environnement justement inflammatoire, c'est l'environnement dans lequel prospère Porphyromonas gingivalis. Donc, vous voilà prévenus, un détartrage tous les 6 mois obligatoire. N'hésitez pas, prenez rendez-vous chez votre dentiste si vous avez du retard. C'est en tout cas les bonnes pratiques qui peuvent déjà être issues de ces études. Enfin,
on a un peu, j'ai un peu l'impression que c'est la première fois quand même qu'on fait un lien direct entre la santé bucco-dentaire, comme on le dit, et un peu les maladies neurodégénératives. Enfin, c'est la première fois sur cette antenne. On comprend qu'en fait, les recherches durent depuis un bon bout de temps. Parce que si tu dis qu'on est en phase concrète maintenant d'application sur des vrais malades, entre guillemets, je veux dire, on n'est plus du tout dans un stade expérimental in vitro, c'est qu'on a déjà un bon bout de temps qu'on travaille dessus. Et c'est intéressant de voir une nouvelle piste encore assez prometteuse apparemment.
Sachant que quelque part, c'est un petit peu contredit aussi par l'actualité, puisque je regardais un peu ce qui se disait sur les dernières recherches de la maladie d'Alzheimer, et en parallèle, il y avait d'autres articles qui sont sortis sur plutôt l'aspect un peu décourageant de certaines études, l'arrêt de plusieurs essais cliniques, sûrement sur d'autres modalités, parce que, évidemment, là, attention, hein, c'est pas certain que ces traitements-là arriveraient à complètement guérir des malades d'Alzheimer. Je pense que c'est une des modalités de la maladie, là, en tout cas, une des expressions qui peut-être pourrait être traitée. Je pense qu'il faut rester très prudent. Mais à l'inverse, voilà, je voyais des retours qui étaient plutôt négatifs et qui montraient que beaucoup de laboratoires, à l'inverse, étaient plutôt dans le découragement et ne trouvaient toujours pas de solution pour résoudre ce problème.
Mais dans cette émission, on parle d'Alzheimer depuis, on va dire, grosso modo 2-3 ans. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, il y a une communication d'un laboratoire international qui suit telle ou telle piste. Et à chaque fois, on se dit, tiens, c'est assez intéressant et assez prometteur. Et après, voilà, j'aurais dû répertorier le nombre de pistes qu'on a évoquées. Et quand je dis qu'on évoque ici, ça veut dire qu'il y en a aussi plein d'autres, évidemment. Et après, effectivement, on n'a pas de suite quelque part, parce qu'on se dit que finalement, les pistes qui semblaient prometteuses se sont un petit peu refermées au fur et à mesure. Là, on en a une nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans une étape assez avancée, en fait, au niveau des tests. C'est ça qui interpelle un peu dans cette annonce.
On dit 2019 à suivre. Est-ce que pareil, il s'avance un peu ?
Alors peut-être qu'il s'avance un peu, mais effectivement, c'est beaucoup plus avancé que d'autres articles qu'on a pu évoquer dans cette émission assez régulièrement. Parce que Parkinson et Alzheimer, il y a des articles toutes les semaines. Oui. Toutes les semaines, il y a quelque chose qui sort. Et on se dit, au bout d'un moment, on va y arriver. Là, voilà, encore un autre, mais qui est présenté sous un angle assez avancé. C'est ça qui est intéressant. Affaire à suivre. Alors, comme on est dans la partie médecine, peut-être d'une façon un peu moins dramatique, on va quand même parler des petites blessures qui sont évidemment fréquentes dans la vie de tous les jours, plus ou moins graves, des cicatrices, des coupures avec un couteau de cuisine, des incisions chirurgicales. Donc, il y a des pansements, il y a des bandages qui servent généralement à pouvoir favoriser la guérison de ces plaies. Et dès les années 1960, d'après l'American Chemical Society, la société américaine de chimie, des médecins ont observé que des stimulations électriques pouvaient aider à la cicatrisation de la peau. Alors, on s'est demandé, mais pourquoi on ne pourrait pas utiliser un petit courant électrique dans un pansement pour qu'une plaie se referme plus vite ? Et après, on pourrait ainsi essayer d'éviter les complications d'une blessure. Eh bien, il y a des chercheurs américains et chinois, ils ont travaillé ensemble et ils ont imaginé un pansement électrique et ils l'ont testé chez l'animal, en l'occurrence le rat. Pour générer un champ électrique guérisseur, eh bien, le pansement contient un petit générateur, un nanogénérateur, c'est-à-dire un générateur portable de très petite dimension, composé de feuilles superposées de polytétrafluoroéthylène, je ne le répéterai pas, de cuivre et de polyéthylène téréphtalate. Et ce petit générateur a pour particularité de convertir les mouvements normaux de la peau, là, les respirations, tout ça, les petits mouvements que l'on a, eh bien, il peut les convertir en impulsions électriques. Et pour cela, l'appareil est attaché avec un bandage autour du torse. Il y a 2 électrodes qui étaient placées de part et d'autre de la plaie pour essayer de créer un champ électrique, un faible champ électrique. Évidemment, on n'est pas là quand même pour essayer d'électrocuter les gens. Mais les chercheurs, ils ont réalisé Alors, le protocole expérimental est horrible, mais je vous l'explique quand même. Ils ont réalisé des petites incisions sur le dos des rats. Hein, voilà. Ils étaient placés sous anesthésie, nous dit-on quand même. Et ils ont placé ce dispositif au niveau des plaies. Les pansements électriques ont ainsi permis de refermer les plaies en seulement 3 jours, alors qu'il en fallait 12, avec un pansement témoin sans électricité. Donc c'est assez prometteur là également. Et pour comprendre les raisons de cette cicatrisation assez rapide, les chercheurs ont réalisé des expériences in vitro sur des fibroblastes. Hein, ce sont des cellules qui jouent un rôle dans la guérison des lésions. Ils vont essayer de migrer, de se positionner au niveau des plaies. Et d'après les expériences sur ces cellules, eh bien on s'est rendu compte que ce petit champ électrique qu'on mettait en place pouvait stimuler les mouvements justement de ces fibroblastes qui vont pouvoir aller plus vite au niveau de la plaie, pouvoir aussi proliférer d'une façon un petit peu plus importante. Ce pansement électrique, à première vue, il paraît prometteur au vu de sa simplicité. De plus, comme le champ électrique qu'on crée, il est quand même de faible intensité, comme vous l'a dit, eh bien on peut imaginer qu'il soit sans danger chez l'homme. Les chercheurs prévoient de le tester d'abord sur de la peau de cochon, parce qu'on sait un petit peu l'analogie entre la peau de cochon et la peau des humains. Et voilà, on essaye d'en savoir un peu plus. Mais donc là, on est dans un stade un peu moins avancé par rapport à ce qu'on vient d'écouter avec toi, Carole. Mais en tout cas, ça paraît là aussi prometteur avec ces pansements électriques qui pourraient accélérer la cicatrisation. Pourquoi pas, après tout, il faut qu'on essaye de tester un petit peu toutes les pistes et on verra bien ce que ça donnera. Mmh. On écoute un petit titre et puis on se retrouve juste après. On reviendra sur quel sujet pour avoir un petit teasing.
De nouveau, un petit tour dans l'espace.
J'aime bien m'envoyer en l'air avec toi, Carole, à tout de suite. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire, Carole. Toi, tu m'as troublée.
Oui, la musique se fait un peu désirer.
Fait un peu désirer parce que normalement, j'appuie sur un bouton et ça devrait le faire. Mais du coup, voilà, ça va. Non, ça ne va pas y arriver. Bon, écoute, on va. Si tu nous parlais un petit peu de
ton. Oui. Alors, on peut parler tout de suite de l'espace et puis comme ça.
On va parler tout de suite de l'espace. C'est gentil, Carole,
comme ça,
je te remercie.
Tu peux regarder pour les réglages plus en détail. Oui. Donc, moi, je voulais aborder ce sujet des astéroïdes puisque, bon, on en parle régulièrement dans l'actualité. On en parle pour savoir qu'est-ce qui a pu arriver à l'époque justement de nos très très lointains voisins, voisins et également habitants de la Terre, donc les dinosaures. Et en fait, donc il y a quelques semaines, des résultats de certaines recherches sont parus pour justement indiquer que la Terre visiblement recevrait de plus en plus d'astéroïdes. Alors, on a plutôt l'idée qu'à l'heure actuelle, les astronomes pensent que la quantité d'astéroïdes fondant sur la Terre a plutôt diminué d'intensité avec le temps. Mais des chercheurs, justement, qui ont publié leurs résultats dans la revue Science, ont découvert que c'était l'inverse. Alors, en effet, le nombre d'astéroïdes ayant frappé la Terre a été 2,5 fois supérieur dans les 290 derniers millions d'années par rapport aux 700 millions d'années précédentes. Oui, encore une fois, quand on parle de ce genre de sujet, il faut revenir à ce qu'on appelle les temps géologiques et on est, en termes d'échelle de temps, sur des périodes vraiment extrêmement longues. Alors, quelle est l'origine de cette variation ? Probablement de grands accidents cosmiques dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Selon donc Tom Gernon, co-auteur de l'étude et professeur de sciences de la Terre à l'université de Southampton, ces impacts ont envoyé une pluie de roches spatiales vers la Terre. Il y aura un pic et puis cela diminuera. Les chercheurs ne font pas de lien entre cette augmentation du nombre d'impacts d'astéroïdes et les grands événements de l'histoire de notre planète, comme l'extinction de 90% de la vie terrestre il y a, je le rappelle, 252 millions d'années. Mais la disparition des dinosaures qui ont vécu sur Terre de moins 245 à moins 65 millions d'années est bien liée à l'impact d'un gros astéroïde. La co-auteure de l'étude Rebecca Gent de l'Université de Toronto, indique « Toute la question est de savoir si les changements dans la fréquence des impacts d'astéroïdes peuvent être directement liés aux anciens événements sur Terre. » Bien que les causes de ces événements soient compliquées et puissent inclure d'autres causes géologiques comme des éruptions volcaniques ainsi que des facteurs biologiques, eh bien les impacts d'astéroïdes ont probablement joué un rôle dans cette saga. Donc, pour calculer la fréquence des impacts, les scientifiques ont compté le nombre et l'âge des cratères sur la Lune qui est autant bombardé que la Terre. Et ils ont découvert qu'il existait dans les proportions similaires, le nombre d'impacts, ils existent dans les proportions similaires sur les deux astres. Donc William Bogte, expert en astéroïdes au Southwest Research Institute aux États-Unis, nous dit que la Lune, en fait, c'est comme une capsule témoin parce qu'elle nous aide à mieux comprendre la Terre. En effet, sur la Terre, évidemment, on sait que la Terre est protégée justement d'un certain nombre d'impacts, et alors que la Lune, quant à elle, forcément, subit, j'ai envie de dire, de manière beaucoup plus directe ces pressions de la part des astéroïdes. Donc jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait moins de cratères anciens sur Terre par rapport à d'autres corps du système solaire en raison de l'érosion par les vents ou des processus géologiques qui n'existent pas sur la Lune. Et finalement, en fait, les chercheurs nous disent qu'il y en avait moins dans un lointain passé, tout simplement car il y avait en fait moins d'astéroïdes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette augmentation ? Forcément, la question, elle a été posée aux scientifiques. Monsieur Gernon nous dit que pas du tout, puisqu'en fait, il nous rappelle que ces impacts restent très rares. Du reste, il faut aussi se rassurer parce que la NASA, elle surveille en permanence tout objet de plus de 30 à 50 mètres de largeur qui se rapproche de la Terre. Donc, voilà, ne pas trop d'inquiétude. Il y a également toute une réflexion et je conseille ce gros dossier dans le magazine Science et Vie du mois de février sur les astéroïdes tueurs. Il y a également donc tout un gros dossier qui explique les différentes options qui sont envisagées pour combattre en fait ces astéroïdes et surtout qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais on arrive à identifier un astéroïde qui pourrait avoir un impact sur la Terre.
Merci Carole.
Un impact cette fois-ci vraiment destructeur, parce que bien sûr il y en a, mais qui sont...
Mais pourquoi on n'envoie pas Bruce Willis ?
Ah, on n'a pas pensé. Je pense que maintenant il est à la retraite. Je pense que c'est...
Bruce Willis n'est pas à la retraite.
En tout cas, dans le dossier, je n'ai pas vu cette possibilité.
Eh bien, nous allons proposer cette piste de recherche sérieuse.
À la NASA.
À la NASA. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi.
Alors, bon, il faut savoir que j'étais un petit peu perturbée pendant l'article par toute la technique qui s'est déroulée.
Je te préviens tout de suite, Carole, qu'il se peut que nous soyons obligés de poursuivre directement sans musique. C'est possible.
Je pense que dans ce cas-là, ce sera à ton tour.
Mais évidemment, ça sera à mon tour, mais il n'y a absolument pas de problème. Écoute, on teste, on tente, on regarde si ça fonctionne. Apparemment, non, je pense que ça ne va pas être génial.
Bon. Il faut y croire.
Mais même en y croyant, non, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas
qu'est-ce
grave.
Qu'est-ce que tu fais pendant 10 minutes ?
Je n'en sais rien, Carole. C'est méchant ce que tu me fais faire. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoute, c'est pas grave, on va continuer de toute façon.
Ce sera pour la prochaine émission. Oui, mais pas de musique aujourd'hui. Peut-être qu'on peut chanter.
Mais ne me tente pas. Ne me tente pas parce que il y a eu des expériences passées qui n'ont pas été véritablement réussies, restées dans les annales. Donc je ne chanterai plus jamais à ce micro.
D'accord.
Je ne sais pas. Oui, mais c'est étonnant quand même.
Je peux mettre de la musique.
Ah, mais tiens, ça y est. Non, j'ai l'impression que c'est un petit peu mal parti. Oui, je ne sais pas ce qui se passe.
En fait, en tout cas, ce n'est pas le début.
Mais... Non, déjà, ce n'est pas le début. Et en fait, c'est un CD. Alors que là, tu as l'impression que c'est une espèce de vieille platine qu'on a mis. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ce n'est pas grave. Je regarderai ça ultérieurement. J'en suis désolé, cher ami auditeur. Mais c'est le 9 février. C'est une journée de fête. Comme ça. Et on s'est dit, mais on ne va pas tout le temps mettre de la musique. En plus, tu es là pour une fois derrière le micro, Carole, autant en brevidé, oui, au lieu d'écouter des titres. Tu te rappelles qu'on s'est quitté la semaine dernière avec cette question essentielle. Qui, je pense, auprès de nos auditeurs, a vraiment interpellé parce qu'ils ne se sont jamais posé cette question. Et fort heureusement, l'Université de New York a essayé d'apporter une réponse pour essayer de savoir combien de coups de langue il faut pour finir une sucette.
Ah oui, on avait lancé les
Mais
les
on
paris.
Avait lancé, et puis il y a eu toutes sortes de réponses. Combien de coups de langue sont nécessaires pour essayer donc de réussir cet exploit, de terminer une sucette sans la croquer, évidemment. Parce que sinon, on triche. On en sait un peu plus, donc aujourd'hui, grâce à cette équipe de chercheurs de l'Université de New York, qui avec beaucoup de sérieux, parce que je vois ton œil un petit peu qui pétille, mais non, c'est très sérieux, ils ont étudié l'évolution de la forme de sucrerie dans de l'eau en mouvement. Alors, est-ce que c'est une recherche inutile ? C'est ce qu'on pourrait se dire au premier abord. C'est pas si sûr. Eh bien non, parce que leurs résultats qui paraissent dans la revue Journal of Fluid Mechanics, donc quand même la
mécanique
revue très sérieuse de mécanique des fluides, eh bien ça pourrait quand même avoir de nombreuses applications et pas seulement pour l'industrie de la confiserie. Pour leurs expériences, les scientifiques ont placé des sucettes qui mesurent de 1 à 10 cm dans de l'eau qui coulait à une vitesse à peu près de 1 mètre par seconde. Ils ont utilisé différentes formes de sucreries, parce que ça peut être des sucettes rondes ou des sucettes longues, cylindriques, et ils les ont photographiées pendant que, eh bien, que l'expérience se poursuivait. Ils ont observé, grâce à ces images, que la turbulence qui était créée dans les courants d'eau, ça a conduit à un aplatissement de l'arrière de la sucrerie. On n'aurait jamais douté de cela. Chaque sucette développait la même forme avec un arrière plat et un avant bombé. Et comme l'explique Leif Ristrop, qui est un mathématicien qui a mené cette étude, s'il te plaît Carole, les sucettes ont tendance à évoluer vers des formes similaires. Nous trouvons que des formes géométriques initiales différentes sont sculptées en une forme terminale similaire avant de finalement disparaître. Alors, en plus de l'évolution de la forme de la sucrerie, les chercheurs se sont intéressés à la vitesse à laquelle celle-ci disparaissait. Et d'un point de vue mathématique, la vitesse de dissolution de la sucette augmente avec la racine carrée de la vitesse du fluide.
Oui.
Je trouve que placer ça dans une conversation avec des gens sérieux qui se la pètent, eh bien là, tu peux expliquer que justement, la vitesse de dissolution de la sucette, elle augmente avec la racine carrée de la vitesse du fluide. Entre autres applications de leur calcul, les chercheurs ont donc estimé qu'il fallait qu'une langue lèche 1000 fois le bonbon pour dissoudre 1 cm de sucrerie. Donc, pour une sucette classique qui fait à peu près 2,5 cm, il faut 2500 coups de langue qui devraient donc permettre d'en venir à bout. 2500 coups de langue pour finir une sucette, on n'aurait jamais dit ça.
Non.
Eh bien là maintenant, grâce à ce mathématicien, on peut le savoir, ceci bien sûr ne tient pas compte de l'action de la langue qui pourrait modifier la façon dont le bonbon se dissout, mais c'est quand même une modélisation plus proche de la réalité qu'un écoulement d'eau est plus facile, difficile à obtenir. Alors, on l'a dit, ces résultats peuvent faire sourire Carole et d'autres personnes mal intentionnées. Cependant, ils pourraient permettre des applications sur la dissolution de matériaux pour les industries chimiques et les industries pharmaceutiques. Ils pourraient aussi aider à mieux comprendre le processus d'érosion des roches par l'eau de mer ou des rivières. Bref, on se demande bien sûr si cette étude pourra être en lice pour les fameux prix Nobel, les IG Nobel qu'on évoquait tous les ans avec PJ.
À mon avis, il faut le mettre de côté. Hein.
Et oui, c'est IG Nobel qui, au départ, avec ce slogan, la science fait sourire, puis réfléchir, parce qu'évidemment, au premier abord, c'est rigolo, mais après, derrière, il peut y avoir des applications assez intéressantes, notamment en mécanique des fluides. Et oui, Carole, tu retiendras 2500 coups de langue.
J'ai retenu, oui. Très bien.
Et là, tu te dis, mais quelle transition on peut avoir ?
Aucune, comme souvent.
On serait vraiment dans un bon jour, ce qui n'est pas le cas techniquement aujourd'hui.
Techniquement,
on aurait pu trouver plein
de
transitions originales, mais là, je ne vois pas, parce que, connaissant Carole, tu vas nous parler encore des animaux.
Bien sûr, mon sujet favori. Alors si, peut-être le côté un peu ludique de ces études est un petit peu inattendu, mais je vais ménager mon suspense parce que du coup, je vais d'abord raconter une première histoire et ensuite...
Les histoires de Carole.
Voilà, tu nous feras une transition et puis je finirai en apothéose avec la dernière.
Et oui, comment elle nous vend
le truc. Tu vois, le suspense.
C'est très bien vu.
On va commencer. Donc là, on est vraiment dans de l'éthologie. Hein, donc, mon domaine de prédilection.
Oui, mais rappelle-nous, parce que l'éthologie est un nom qu'on n'entend jamais, sauf à cette antenne.
L'étude des comportements. Évidemment, du coup, on étudie globalement surtout le comportement animal parce qu'il nous permet déjà de comprendre énormément de choses sur donc, le monde qui nous entoure et également de comprendre l'apparition d'un grand nombre de comportements très humains. Donc, c'est passionnant. Et là, moi, je vais justement faire un petit focus sur le cacatoès. Alors, au niveau des oiseaux, on a beaucoup de recherches qui sont faites et on a beaucoup de recherches assez connues sur les corbeaux. On sait que justement les corbeaux, ils sont capables de couper des brindilles pour transporter des objets ou chercher notamment à manger. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées là-dessus. Et cette fois-ci, donc c'est Science et Vie qui nous apprend qu'on découvre que le cacatoès de Goffin, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, c'est une espèce qui est endémique de l'Indonésie, c'est en fait tailler un bâtonnet dans du carton pour attraper des noix de cajou. Alors, ça paraît quand même un peu fou. En plus, il y a une photo qui, je trouve, montre bien l'animal en pleine action. On savait déjà, en fait, que son cousin, le cacatoès noir, était connu pour signaler son territoire et son nid en jouant de la batterie avec des bâtonnets. Ça, c'est du coup une des chercheuses de l'université de Vienne, Alice Auersperg, qui donc, nous l'indique. Mais cette fois-ci, le cacatoès de Goffin, carrément un véritable artisan, puisqu'en fait, après plusieurs essais, il parvient à tailler son instrument pile à la bonne longueur pour réussir à faire tomber, donc au travers d'une fente, sa récompense, c'est-à-dire un morceau de noix de cajou qui était piégé dans une cage de verre. Donc c'est ça qui est quand même fou, c'est-à-dire qu'il est capable de retravailler son outil au fur et à mesure pour atteindre réellement son objectif, c'est-à-dire d'avoir un objet de la taille exacte dont il a besoin. La chercheuse nous précise que la courbe verticale de son bec l'empêche d'amincir ses constructions et qu'il ne peut pas tenir le carton dans la mâchoire tout en le coupant en largeur. Mais voilà, donc ce qu'il arrive déjà à faire dans ces conditions-là en plus est quand même assez extraordinaire. Et ce comportement, en fait, il suggère que la cognition du cacatoès de Goffin surpasserait celle de certains primates. En tout cas, c'est des études qui permettent d'aller dans ce sens-là, même si, bien évidemment, les primates sont capables d'énormément de choses. Mais je suis certaine qu'on continuera à découvrir des choses fascinantes, justement, chez ce type d'espèce.
Bien sûr, évidemment, mais c'est quand même assez ingénieux, finalement. Parvient à ses fins.
Tout à fait.
Carole, tu veux une bonne nouvelle ?
Oui, la musique fonctionne ?
Normalement, la musique fonctionne.
Oula, on tenterait un titre ?
On va tenter un titre.
Attention.
Attention.
Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, c'est la surprise.
Ah bah...
Déjà.
Si ça fonctionne, je t'expliquerai tout à l'heure, j'expliquerai aux éditeurs ce qui s'est passé.
Ça marche.
Sous la lune, je m'allume une terrasse. Il n'en reste qu'une. Sous la lune, je m'allume une terrasse. Il ne reste que du butin. Sous la lune, je m'allume une terrasse. Il ne reste que du butin.
Graphite 94.9 FM.
Et sur graphite.net, pour ceux qui nous écoutent sur internet, on vient d'écouter Béton armé du groupe Bagarre. C'était violent, oui, c'était...
Oui, c'était, oui, 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 le c'était... début 2019, on met des musiques.
Ah mais c'est ça, maintenant c'est ça graphite. juste pour vous expliquer, en fait, il y a un bouton sur la platine qui lit les CD en marche arrière, en fait.
Ouais.
Et j'ai dû appuyer malencontreusement sur ce bouton, c'est pour ça que je n'arrivais pas à faire démarrer un titre qui était sur la qui zone au début et qui ne pouvait pas reculer, en fait. Donc si le titre avance et si la platine recule, comment veux-tu que ça fonctionne ? Eh bien, ça ne fonctionne pas. Bien, je suis content, j'ai compris maintenant comment ça devrait fonctionner. Je suis vraiment désolé, mais bon, on essaye pendant ce temps-là de pouvoir vous agrémenter de quelques articles scientifiques. Alors là, ce n'est pas nécessairement scientifique, mais en tout cas, ça avait fait beaucoup parler, bien sûr, le Titanic. Un petit peu l'impression que c'est cette émission, en fait, quelque part. Mais, mais non, mais pas du tout.
Non.
L'histoire, donc, du naufrage du Titanic. Son épave a été découverte en 1985 au large des côtes de Terre-Neuve, à environ 3800 mètres de fond. Et les chercheurs ont développé, justement, pour cette épave, un intérêt certain. Alors, pour financer les expéditions, il y a une société américaine baptisée OceanGate qui a eu une idée en 2019, donc cette année. Elle propose à des touristes un peu fortunés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent dans le monde, nous dit le communiqué de presse, de s'offrir une vue imprenable sur le Titanic. Et tout ça pour une somme totalement modique de combien ?
Je ne sais pas, mais sûrement très élevé.
92 000 euros, ce qui est rien, ce qui est rien.
Pour Noël, Noël prochain.
En fait, on nous explique que c'était l'équivalent du prix du voyage inaugural en cabine de première classe. Alors, en comparaison de l'inflation, évidemment, oui. Parce que ça fait quand même un siècle. Mais voilà, vous allez pouvoir, si vous avez 92 000 euros, embarquer aux côtés de scientifiques à bord d'un sous-marin tout en fibres de carbone et de titane, et chaque plongée durera quand même entre 10 et 12 heures, c'est quand même pas rien, c'est quand même une belle excursion, de quoi profiter pleinement du paysage. Des biologistes, quant à eux, vont se concentrer sur l'étude des espèces pour certaines uniques et qui peuplent l'épave et son environnement. Il y a des archéologues de leur côté qui vont scanner les débris à l'aide de lasers et de caméras dédiées afin d'en apprendre un peu plus sur les mœurs des voyageurs de l'époque et sur les capacités des matériaux à résister à de telles conditions de submersion. Et en répétant les expéditions au fil des mois et des années, les chercheurs espèrent par ailleurs tracer dans le temps l'évolution des dégradations qui sont subies par le navire, parce qu'on souhaite notamment vérifier si cette bactérie qui s'appelle Halomonas titanicae, cette fameuse bactérie qui mange le fer, eh bien, on va voir si elle va être capable de totalement digérer le Titanic d'ici 20 ans, comme le prédisent certains. Donc, au fil de ces expéditions, on aura une vision un petit peu de la dégradation de ce Titanic. Moi, je me pose une question qu'évoque pas dans cet article. Mmh. On est à 3800 mètres de fond, on n'y voit rien. Donc tu y vas pour voir du noir. Donc ils vont te mettre des gros projecteurs.
90...
Ça sert à rien.
C'est-à-dire que non, je pense qu'en effet, ils éclairent. Oui, bien sûr, mais là, il y a un système d'éclairage. Non, non, si.
C'est superficiel. Non, je suis pas d'accord.
Après, je pense qu'en effet, il n'y a pas un système encore d'éclairage qui serait intégré à l'épave.
Ah oui.
Je pense que ça n'arrivera pas. Mais je pense qu'il y a, ils ont ce qu'il faut pour quand même que les gens puissent voir. Sinon, ça n'intéresserait personne.
Bah, on est bien d'accord. Tu payes quand même plus de 90 000 euros si tu ne vois rien. Mais bon, c'est à voir. Mais du coup, ça fausse un peu, je trouve. J'aurais peut-être pu faire un petit éclairage sympa sur le Titanic en mettant des petites diodes pour la consommation d'énergie. Enfin, tu vois, quelque chose d'assez moderne. Ben non, on met des espèces de gros vieux projecteurs halogènes dégueulasses. Ça va te faire une lumière blafarde, tes photos seront nulles. Tu vas être la risée de tout le monde pour 90 000 euros. Sûrement pas. En tout cas, voilà, vous pouvez visiter dès cet été pour 90 000 euros l'épave du Titanic. Pourquoi pas ? En tout cas, d'un point de vue scientifique, évidemment, on va apprendre encore et encore plein de choses.
Surveillons les Instagram, si ça se trouve, on aura des photos intéressantes.
Ah,
on
possible.
Va regarder. On va...
Ça, c'est possible. Donc, si vous avez des fourmis dans les jambes, allez donc voir le Titanic. Super transition, je suis bien de tout bon.
Pour ma deuxième histoire, donc, sur le comportement animal, puisqu'en effet, donc, après avoir parlé du cacatoès, on va parler cette fois-ci des fourmis. Pareil, les fourmis font l'objet de découvertes toujours plus impressionnantes les unes que les autres. Et cette fois-ci, on va parler de la ruse de certaines fourmis qui ont des pratiques relativement quand même particulières. Alors, l'histoire commence il y a 60 ans au sud-est des États-Unis, où des scientifiques font une macabre découverte dans des fourmilières de l'espèce Formica archboldi. Et oui, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Des tas de crânes, des proies de cette fourmi, donc, sachant que ces proies sont aussi redoutables puisqu'il s'agit d'un autre type de fourmi, cette fois-ci appelée Odontomachus ou fourmi piège mâchoire.
Elles mangent d'autres fourmis.
Oui, et surtout dans leur habitat, enfin donc chez elles, hein, dans leur fourmilière, on retrouve les crânes de ces autres fourmis, mais des crânes sous forme de tas. Ça fait penser, je ne sais pas, ce qu'on peut imaginer, enfin, est-ce qu'on a vu dans certains films sur des tribus reculées qui conservaient des crânes.
Oui, bah c'est peut-être ça.
J'ai trop regardé Indiana Jones.
C'est joli en intérieur, oui, ça peut être sympa, c'est de la déco.
C'est peut-être très moderne en fait comme déco. Alors à ce moment-là, Adrian Smith de l'Université d'État de Caroline du Nord s'est penché sur le sujet donc depuis ces fameuses découvertes il y a 60 ans, afin de reconstituer justement et de comprendre la funeste routine de la fourmi Formica archboldi. Après avoir en fait, on découvre évidemment son mode opératoire, mais même son...
Un serial killer.
Oui, c'est un peu ça. Oui, voilà.
Le Formica's killer.
C'est ça, qui en fait donc, commence par asperger sa victime d'acide formique. Ça a un effet paralysant, donc la victime ne peut plus bouger. Et juste après, en fait, elle l'entraîne dans son nid, où là, elle la mordille, la lèche et la démembre avant d'empiler le rebut de son dîner, c'est-à-dire les fameuses têtes vides. Donc en fait, il ne reste que les têtes et à ce moment-là, elle les stocke et elle fait ses petites colonnes. Et bien ça, on ne sait pas. On a déjà, dans un premier temps surtout, découvert justement la clé de ce mode opératoire qui en fait est liée à un art très très développé du mimétisme chimique. Parce qu'en fait, donc, la fourmi Formica archboldi copie les signaux chimiques de sa proie, Odontomachus, avec donc ses composés particuliers qui signalent l'appartenance d'une fourmi à sa colonie et à son espèce. Donc par mimétisme chimique, elle leur fait croire finalement qu'elles sont de la même espèce. Et ensuite, donc Formica archboldi, justement, elle synthétise sur sa cuticule de 20 à 40 hydrocarbures identiques à ceux d'Odontomachus. D'accord. C'est comme ça finalement qu'elle la
trompe. Elle se camoufle alors quelque
Exactement.
Part, d'un point de vue chimique.
Elle lui fait croire, voilà, d'un point de vue chimique, qu'en fait, il n'y a aucun danger. Et donc justement, en se faisant passer pour son ennemi, hein, elle évite sans doute de se faire agresser. Et elle réussit en tout cas à arriver à ses fins. Mais justement, après, la collection de crânes qu'elle conserve reste pour l'instant un grand mystère.
Mais est-ce que quelque part, ces crânes ne pourraient pas stocker encore ces molécules chimiques et du coup, si elle veut resynthétiser, elle va essayer d'humer un petit peu ces crânes. Je ne sais pas.
Aucune idée. J'ai tendance à penser quand même que ça se dissipe et puis que surtout après sur des crânes. Donc voilà, parce qu'il faut, pour encore une fois, pouvoir produire sur sa cuticule les hydrocarbures, je pense quand même qu'il faut que les mécanismes soient opérationnels. Donc je pense que du coup, sur les crânes, il n'y en a plus. Et que c'est difficile à mon avis. Après, on a encore beaucoup de choses à découvrir sur les fourmis, ça reste mystérieux. Donc, faut pas tout de suite faire de l'anthropomorphisme et y voir peut-être certains comportements qu'on a pu connaître justement chez l'homme. Peut-être qu'il y a d'autres rôles qu'on découvrira plus tard.
Mais peut-être que tout simplement, la fourmi est souillon. Mais on essaye de décider. On essaie de trouver des raisons.
Mais non, c'est juste qu'elle ne range pas.
Mais non, mais c'est peut-être possible de savoir. Elle a peut-être une chambre qui est mal rangée
peut-être.
Avec plein de crânes. On va savoir, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Mais en fait, c'est quand même assez intéressant de voir qu'elle se camoufle d'un point de vue.
En fait, c'est une photo qui est extraordinaire. On la voit, on voit tous les crânes.
C'est dans le Science et Vie de février. Donc, on peut se procurer si vous le souhaitez et voir cette image. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'elle se camoufle. Elle se badigeonne un petit peu de certains composés chimiques. Et en fait, ils y voient du feu et tout se fait d'un point de vue odorat, en fait, d'un point de vue phéromone. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment en termes de molécules chimiques que ça se fait.
Après, il y a beaucoup de phénomènes comme ça chez les fourmis. Beaucoup, beaucoup de choses sont étudiées d'un point de vue chimique. Parce que pareil, pour tout ce qui est les routes, pour qu'elle se retrouve, pour qu'elle retrouve la route qui va à certaines ressources alimentaires, etc. Tout se passe d'un point de vue chimique.
Oh, c'est formidable, on va apprendre plein de choses. Merci Carole. Alors, bon, moi j'ai une information qui est vraiment intéressante, mais qui n'a aucun rapport. C'est notre environnement qui est bien sûr saturé d'ondes, d'ondes radio pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM bien sûr, et de toutes sortes d'ondes utilisées par nos appareils pour communiquer sans fil, mais dont la puissance est en grande partie perdue et qui finit absorbée par l'environnement. Eh bien, il y a une équipe de chercheurs qui travaille notamment au fameux Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, qui vient de publier dans la revue scientifique Nature. Alors franchement, oui, là, on est vraiment au top du top. Ils ont publié un article qui dévoile une nouvelle technologie destinée à transformer les ondes de type Wi-Fi en courant électrique, tout ça pour alimenter les appareils électroniques. Et cette idée de base est révolutionnaire, à mon sens. C'est-à-dire, c'est quand même assez extraordinaire. L'idée est la même que celle utilisée par le constructeur Wiliot qui a été présenté récemment. Dans ce cas précis, l'utilisation des ondes avait pour but d'alimenter une petite puce Bluetooth basse consommation pour créer un petit peu ce qu'on va appeler des étiquettes sans fil et sans batterie. Et les antennes sont conçues uniquement pour délivrer quelques microwatts à un appareil spécifique. Et donc ça, c'est à l'inverse de la technologie qui est développée par le MIT, qui peut s'adapter à des usages beaucoup plus diversifiés. C'est ça qui est intéressant. Thomas Palacios, qui est l'un des auteurs de cet article, pose la question qui a guidé les recherches. Et si l'on pouvait développer des systèmes électroniques recouvrant un pont ou une autoroute ou bien les murs d'un bureau, apportant l'intelligence électronique à tout ce qui nous entoure, comment alimenter ces appareils électroniques? C'est la question qu'il se pose. La technologie se base en fait sur les antennes qui vont convertir les ondes des fréquences radio en courant continu, et les chercheurs ont développé un système contenant une antenne radioélectrique flexible qui va convertir les ondes électromagnétiques en courant, cette fois-ci alternatif. Le signal passe alors par une espèce de petit semi-conducteur en deux dimensions qui épaisse seulement de quelques atomes, donc évidemment totalement invisible à l'œil nu, et il va donc pouvoir transformer tout ça en courant continu. C'est une technique assez, particulière et assez difficile à appréhender et à expliquer à la radio, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la flexibilité de ce système qui va permettre d'être produit sous forme de rouleaux. Par exemple, ça va laisser la possibilité de recouvrir des grandes surfaces, dont les fameux ponts, dont les fameuses autoroutes, dont les fameux murs que expliquait ce scientifique au départ quand il s'est posé la question. Une telle conception a permis de créer un appareil entièrement flexible, suffisamment rapide pour couvrir la plupart des bandes de radiofréquences utilisées par nos appareils électroniques du quotidien, comme le Wi-Fi, le Bluetooth, les réseaux mobiles et bien d'autres. Les premiers prototypes ont une efficacité maximale d'environ 40%. C'est bien, mais on peut faire mieux, mais en tout cas, c'est assez prometteur. Et dans un premier temps, cette technologie peu coûteuse pourrait être utilisée pour créer des appareils souples qui peuvent être portés. Et ce qui est intéressant, on peut penser à des appareils médicaux, par exemple, ou à des objets connectés. De nombreux constructeurs travaillent actuellement sur des smartphones pliables. On en a parlé la semaine dernière. Même si cette forme d'alimentation ne serait pas encore assez puissante à l'heure actuelle, en tout cas, elle est très prometteuse. Des chercheurs travaillent aussi déjà sur des appareils médicaux sous forme de cachets qui pourraient communiquer sans fil et qui ne contiendraient pas de batterie, potentiellement toxique pour le patient. On se rend compte qu'on est en train d'assister à une révolution technologique de transformation d'ondes Wi-Fi, entre autres, en électricité. Et localement, c'est vrai que ça peut avoir des applications totalement bluffantes, intéressantes. Et ça ouvre des portes extraordinaires. C'est le MIT qui vient de communiquer dans la revue Nature. On en a très, très peu entendu parler. Et je trouve ça fort dommage parce qu'on se dit que là, on assiste à des moments importants dans cette émission, on ne s'en rend pas compte.
Oui.
Il y a des moments importants qui sont par exemple la présence de Carole dans ce studio, et l'autre moment c'est le fait de se rendre compte que d'une véritable découverte avec des applications qui vont révolutionner notre quotidien. Vous pouvez vous dire que le 9 février 2019 était un jour assez extraordinaire parce que ça a foiré d'un point de vue technique dans cette émission, mais par contre on s'en est bien sorti, oui, d'un point de vue scientifique avec des très très belles trouvailles. Il nous reste encore quelques 5-6 6 minutes, Carole, as-tu un dernier petit article à nous évoquer ? Peut-être ce qui peut être intéressant aussi, vous savez que dans cette émission, on vous propose régulièrement quelques sorties pour pouvoir visiter des musées scientifiques. Il y a quand même toujours près de chez vous la possibilité de vous rendre dans un espace qui vous permet un petit peu d'apprendre la science, de vous amuser avec la science pour mieux l'appréhender et pour mieux ensuite essayer de comprendre quelques technologies ou quelques méthodes scientifiques, et notamment cette exposition qui est proposée notamment, Carole, au niveau du Palais de la Découverte,
il me semble. C'est ça, au Palais de la Découverte, c'est déjà depuis le 10 octobre et ça va durer jusqu'à fin août de cette année 2019. C'est l'exposition Poison. Donc, moi, je l'avais vu en fait au départ avec l'affiche que je trouve superbe, où on voit plusieurs serpents de différentes couleurs. Donc, on comprend bien tout de suite le principe, puisqu'en fait, c'est une trentaine d'espèces vivantes, venimeuses ou vénéneuses, présentes dans les terrariums pour justement présenter la dualité des poisons, c'est-à-dire substances d'un côté nocives, mais également potentiellement guérisseuses. Bon, après, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'avoue que... Alors, je ne l'ai pas encore vu. J'aimerais bien le faire, mais je pense que je ne vais pas y aller toute seule parce que j'ai un peu peur, même s'ils sont, ils sont théoriquement enfermés, de ces animaux-là. Donc, l'exposition, du coup, avec ce redoutable arsenal, hein, elle explique justement le rôle de ces fameuses substances actives des poisons qui sont produits par certains animaux et plantes et qui ont donc une composition complexe. Alors, on sait aussi que justement, utilisées dans certaines conditions, ces substances, elles peuvent être de précieux médicaments. On en entend parler à l'époque où justement, on n'avait pas toute la médecine qu'on a aujourd'hui et c'est quand même toujours utilisé dans pas mal d'applications. Au-delà de la fascination exercée par le poison comme par ses producteurs, l'exposition propose aux visiteurs de découvrir sa dualité, donc nocive ou guérisseuse. Elle offre des grandes perspectives à la recherche scientifique et confirme aussi les enjeux de protection de la biodiversité. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, mais très rapidement sur justement le parcours de cette exposition, hein, bien évidemment, ils ont réfléchi à une ambiance scénographique tamisée et feutrée. On progresse entre les terrariums à la découverte des espèces vénéneuses et venimeuses, et également, on apprend justement des choses sur leur mode d'administration du poison. Qu'il s'agisse de venin d'attaque ou de défense. On découvre également des espèces qui parfois justement portent des couleurs justement qui sont dissuasives. En général, c'est des couleurs vives. Je pense aux petites grenouilles qui sont assez connues, les dendrobates, surtout à ne pas toucher, qu'on trouve justement au nord de l'Amérique du Sud et dont la peau en fait exude un poison violent. On vous verrait aussi donc plus loin des salamandres, d'autres types de grenouilles, des crapauds, tritons, alors là où il y a tout ce qu'on veut, varans, mygales. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser.
Je comprends ton appréhension.
Oui, voilà, c'est pour ça que je disais ça, parce que je voyais que tu réagissais pas trop, mais moi, bon, en fait,
mais
ça reste une...
Moi,
c'est une hantise, c'est-à-dire que quand j'étais petite, je ne pouvais pas rentrer dans les terrariums, dans la partie terrarium des zoos. C'était impossible. Donc là, vu le regroupement, en tout cas, j'espère qu'ils ont bien sécurisé, parce que là, avec le regroupement d'animaux dangereux... alors, on précise, c'est précisé quand même. Là, je le vois qu'on peut visiter ça en toute sérénité et sécurité. Et en fait, ça nous explique aussi justement que la plupart des animaux venimeux, ils ont besoin de leur venin pour survivre, qu'il s'agisse de se nourrir ou de se protéger des prédateurs potentiels. Ce qui fait qu'en fait, ils évitent tout gaspillage. Parce que justement, produire le poison, ça nécessite souvent énormément de temps et d'énergie. Voilà, donc après, j'en dis pas plus, il faut aller la découvrir. Je pense que c'est vraiment très intéressant et vous avez jusqu'à la fin du mois d'août. Faut aussi pas hésiter à regarder le programme parce qu'il y a des choses autour de l'exposition avec notamment des conférences à certaines dates. Ça peut être un plus de faire l'exposition et en plus de participer à une conférence.
Et si vous allez au Palais de la Découverte, si vous êtes un petit peu effrayé par cette exposition temporaire sur les poisons, il y a une autre exposition temporaire qui est à peu près à la même période. Elle a lieu aussi jusqu'à fin août 2019. C'est celle sur les illusions. Alors là, on est quand même dans une autre...
C'est plus sécurisant.
Et non, parce que justement, on sait qu'en magie, on sait que en art cinétique, au niveau des installations, il y a des illusions qui font régulièrement l'objet de mises en scène assez spectaculaires, qui peuvent reproduire des effets de surprise. Ok, mais la question, c'est se dire pourquoi le cerveau, il est aussi perméable à ces impostures. Donc, c'est une autre forme de poison, quelque part, si on fait une analogie. Et sur quel ressort reposent tous ces stratagèmes ? En fait, il n'y a rien de magique, et c'est juste une question d'interprétation, de perception, de processus cérébral dynamique. Et tout ça vous est expliqué justement dans cette exposition temporaire Illusion, toujours au Palais de la Découverte. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes âgé entre essentiellement collège et lycée, un sixième à la terminale, vous avez vraiment quelque chose qui est un espace de médiation spécialement conçu pour vous, avec des petites expériences et des illusions, et qui vont peut-être vous donner un petit recul nécessaire sur certaines choses qui sont déversées sur certains réseaux sociaux. Et là, peut-être avoir un certain recul au niveau de cette perception avec des illusions pour tromper le cerveau. Donc voilà, vraiment axé pour collège et lycée avec cet espace vraiment spécifique et d'expériences et d'illusions qui sont expliquées. Mais sinon, l'exposition, elle est accessible dès l'âge de 7 ans, bien sûr. Donc ça peut être vraiment intéressant de vous rendre au Palais de la Découverte. Il y a toujours le planétarium, il y a toujours les expositions permanentes avec cette expérience de physique que le monde entier nous connaît, ses cheveux là qui dans la cage de Faraday, c'est ça que je cherchais. Et donc deux expositions temporaires, celle sur le poison et celle sur l'illusion. Voilà,
un beau programme.
Qu'on vous propose notamment pour les vacances de février qui approchent, bien sûr, selon les zones. Merci Carole pour cette émission, périlleuse.
Oui,
sans filer, mais finalement on s'en est bien sorti. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre indulgence. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, vous pouvez nous écouter grâce au podcast sur le site graphite.net et nous réécouter pour l'émission rediffusée tous les mardis matins à 10h. Bonne journée Carole, on se retrouve mardi
samedi prochain. Oui, à samedi prochain.
Eh bien, très bien, samedi prochain. Bonne journée à tous, au revoir.